parfois déguisé en trader, en agriculteur ou encore en athlète olympique. Depuis mon enfance, j'ai toujours aimé sentir la magie des métiers. En grandissant, j'ai pourtant appris qu'il est difficile de choisir le bon costume qui guidera notre vie professionnelle. C'est exactement pour cette raison que j'ai décidé de créer MC Talks. Bienvenue dans un univers où je vous propose d'aller à la rencontre de personnalités au parcours atypique et quelquefois étonnant.
Qui es-tu et que fais-tu sur Terre?
Ok, waouh, c'est la question. Donc qui je suis Clotilde, je suis une bordelaise depuis pas mal d'années et je suis psychologue, psychothérapeute, j'ai fait mes études à Bordeaux de psychologie. Et ce que je fais sur Terre, c'est jongler entre mes passions et mon travail. Et notamment, mon travail rejoint aussi certaines de mes passions, c'est-à-dire me poser des questions sur la psychologie, sur l'épistémologie, qui est l'étude des connaissances. Et donc, je suis actuellement en début d'une thèse d'épistémologie. Et d'épistémologie de la psychothérapie. En gros, c'est l'étude des connaissances qu'on peut avoir de la psychothérapie.
Bah juste la psychothérapie, je sais pas, c'est un mot que j'entends depuis longtemps, mais c'est quoi en fait? Comment tu définirais la psychothérapie?
La psychothérapie, je la définirais comme une application pratique de la psychologie scientifique à des fins cliniques, c'est-à-dire à des fins d'aider, d'améliorer la santé et la qualité de vie des gens. La psychothérapie, elle peut avoir des définitions vraiment différentes en fonction des connaissances justement que les gens ont de la psychothérapie ou de ce que la psychothérapie a comme image médiatique. Et c'est vrai que ça semble un peu flou, voire même très flou quand on parle de psychothérapie, alors que pour moi, c'est quelque chose de très clair. La psychothérapie, c'est une démarche de résolution de problèmes cliniques, donc qui s'appuie sur la psychologie scientifique. Voilà, moi, je le définirais très clairement comme ça.
Ok, donc tu fais de la recherche sur le sujet et en même temps, tu as des patients ici, tu travailles, enfin, tu travailles, oui. La recherche, c'est du travail, hein. Mais dans le sens, tu es aussi sur le terrain en même temps.
Ouais, je ne fais pas de la recherche parce que c'est une thèse et en plus c'est une thèse d'épistémologie. Ah oui. Alors, ce n'est pas une thèse de psychologie, c'est de la philosophie, très clairement. Mais oui, je travaille à temps plein et j'ai des consultations. Donc, je vois quotidiennement des gens dans le cadre de mon exercice de psychothérapeute.
Ok, donc le but, c'est d'aider ces gens à aller mieux, si je résume très facilement en quelques mots.
Exactement.
T'aides les gens à retrouver un peu, je sais pas, bon, on va parler de bonheur plus tard, mais à retrouver le bonheur, en tout cas être content et bien vivre leur vie sur Terre. C'est ça, si je comprends tout bien.
Le plus longtemps possible, pour qu'ils aient le moins possible à revenir me voir ou un collègue.
J'aime bien, tu sais, revenir en arrière à chaque fois et comprendre pourquoi les gens font ce qu'ils font. C'est parfois compliqué, mais toi, pourquoi tu t'es retrouvé là-dedans? C'est assez précis. C'est un métier qui me paraît compliqué. C'est un métier qui me paraît stressant. Comment tu t'es retrouvée dans ce métier-là qui est super complexe?
Ouais. Alors moi, j'aime beaucoup cette question aussi et je suis d'accord avec toi. Enfin, tu ne l'as pas dit explicitement, mais c'est important de poser cette question aux gens, à leur motivation. On a tous des motivations à faire des choses. Et moi, j'avais un prof, un superviseur qui m'avait dit parmi les psys, il y a les psys qui savent pourquoi ils font ce qu'ils font et les autres. Et moi, je pense que je fais partie des psys qui savent pourquoi je fais ce que je fais. Enfin, je crois savoir, en tout cas. Mais c'est la conjugaison de plein de choses. Déjà, depuis que je suis petite, j'ai envie de comprendre les autres. Voilà, c'est un élan naturel que j'ai. Déjà, un élan... j'admire les gens, je les trouve beaux, je les trouve incroyable et ça me motive d'apprendre sur eux et du coup sur moi en même temps. Donc à la base, dès que je suis petite, j'ai envie de m'intéresser à ce qui se passe dans la tête ou dans les interactions des gens et de comprendre et aussi de les aider. J'ai déjà cette envie de faire le bien autour de moi. Alors ça, c'est un truc qui s'est affiné au fur et à mesure. Donc, j'ai depuis toujours une grande sensibilité à l'autre et aussi à la détresse des gens au handicap. Je me souviens qu'au collège, il y avait beaucoup de personnes qui avaient des handicaps, mais invisibles ou qui n'étaient pas reconnues. C'est des personnes dont on se moquait, qui avaient des différences. Moi, je me suis toujours considérée aussi comme quelqu'un qui avait des différences et qui avait peur d'être rejetée à cause de ça ou de ne pas être comprise. Et je pense que j'en ai fait voilà, une sorte d'arme ou de force, en fait, d'essayer de comprendre ce qui se passe chez ces gens et chez les autres, enfin, chez mes camarades et chez moi aussi. Donc voilà, c'est un mouvement, en fait, bidirectionnel, on va dire ça comme ça, entre comprendre les autres et me comprendre moi-même et faire des allers-retours. Et puis je disais déjà petite, plus tard je veux aider les autres. C'était un truc qui était en moi. Et en parallèle, j'ai toujours éprouvé un énorme plaisir au langage et à discuter, à philosopher. Ça, c'est un truc qui me passionne en fait. Et à jouer avec les mots et à jouer avec le langage, presque des fois de manière un peu mathématique, pour relever des contradictions chez l'autre ou relever des raisonnements, des choses illogiques ou des choses qui ont au contraire du sens. Et ça, c'est un truc qui m'amuse depuis très très longtemps. Et finalement, quand je suis arrivée au lycée et que je me suis intéressée à la philosophie et aussi aux arts plastiques, je me suis intéressée à tout ce qui était langage formel, c'est-à-dire la manière dont on s'exprime formellement, la façon dont les choses s'organisent, dont le langage s'organise, pour créer des raisonnements, pour créer des visions, des perceptions sur la vie, sur les autres. Donc, on était dans la psychologie, mais dans un truc encore plus large, en fait, qui est la logique, la philosophie logique et la philosophie du langage. Donc, en fait, j'avais ces deux intérêts pour la psychologie, mais plutôt pour l'autre, et cet intérêt pour la philosophie de la logique et la philosophie du langage, c'est-à-dire comprendre la logique dans le langage et la façon dont on crée des raisonnements et comment ces raisonnements sont organisés et sont logiques, ou ont du sens, ou ont pas de sens. Et après, à la fac, je suis allée en psychologie de fait et je me suis mis à lire pas mal de choses sur les théories de la communication, de l'information, le langage. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure de mes études, j'ai découvert, au travers de stages et au travers de mes cours et des livres surtout que j'ai lus, un intérêt grandissant pour le fait d'aider les autres, enfin donc la psychologie, et aussi le fait de comprendre par le langage et d'aider par le langage. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait allier en fait les deux. Ce qui est paradoxal dans cette histoire, c'est que j'ai commencé à travailler avec des personnes qui n'avaient pas de langage, des personnes qui ont des déficiences intellectuelles, et notamment des troubles du spectre de l'autisme, où le langage est mis de côté. Et ça m'a énormément aidée parce que j'ai été obligée d'utiliser une méthodologie vraiment scientifique pour ne pas surinterpréter les choses. Parce que moi, ce qui m'a toujours passionnée dans le langage, c'est la logique et pas le contenu et pas l'interprétation qu'on fait des choses. C'est l'interprétation qu'on fait des choses, mais c'est de ne pas coller l'interprétation qu'on fait des choses et la réalité. C'est la façon justement dont on raisonne sur la réalité alors que ça n'a rien à voir avec la réalité. Et quand tu travailles avec des personnes qui ont des déficiences intellectuelles, tu es obligé de te reposer sur autre chose que soit ton propre langage, soit sur un pseudo-langage qu'il pourrait y avoir chez lui ou chez ses parents. Et tu es obligé d'observer des choses, en fait, et d'observer des comportements.
Et donc, peut-être justement pour un exemple du côté... Alors, tu dis qu'il y a une différence entre la réalité et le raisonnement que tu fais de la réalité, si je comprends bien. Est-ce que tu as un exemple, peut-être pour qu'on comprenne bien?
Ouais. Alors, si par exemple, je vais prendre l'exemple justement d'un cadre psychologique dans lequel je reçois par exemple un enfant qui a un trouble du spectre de l'autisme et qui se tape la tête, ok. Et les parents ont leurs explications, donc leur propre raisonnement sur la réalité qui va être, je sais pas, qu'ils les aiment pas, ok. Ça m'est déjà arrivé. Qu'ils ne les aiment pas et que c'est pour ça qu'ils se tapent la tête parce qu'en fait, ils ne les aiment pas, ses parents, et qu'il n'a pas envie d'être sur cette terre, etc. Donc, des choses assez très douloureuses, finalement. Et moi aussi, je peux avoir mon propre raisonnement. Je peux me dire, par exemple, ce que j'ai entendu de collègues, que de toute façon, il est autiste, donc il se frappe la tête parce qu'il est autiste. Donc ça, c'est mon raisonnement sur la réalité. Et on peut en avoir plein et qui changent à tout moment. Et moi, mon métier, j'ai appris à essayer d'observer la réalité et pas de m'appuyer sur des raisonnements a prioristes en essayant de les confirmer. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai pu, à travers la psychologie comportementale, on l'appelle comme ça, à analyser ce comportement qui est de se frapper la tête pour comprendre ce qui se passe avant, ce qui se passe pendant et ce qui se passe après, et construire un modèle, une représentation de ce qui se passe dans la réalité pour définir ce qui se passe et enfin donner une explication logique à ce qui se passe. Là, en l'occurrence, je pense à un enfant qui se tapait la tête à chaque fois pour obtenir quelque chose. Et en fait, à chaque fois qu'il se frappait la tête, il obtenait quelque chose de fait parce que l'entourage ne supportait pas qu'il se frappe la tête et lui donnait quelque chose. Donc, c'était de la nourriture, je crois. Et ne se rendait pas compte qu'en fait, tout simplement, à chaque fois qu'on lui donnait de la nourriture, ça renforçait le fait qu'il se frappait la tête. Ça paraît débile comme ça, basique, mais en même temps, c'était l'explication observable, la plus logique, qui se répétait à chaque fois et qui confirmait bien l'hypothèse que je pouvais faire, bien plus qu'il n'aime pas ses parents ou alors c'est juste un autiste. Donc j'ai découvert qu'il y avait une logique aux choses et que cette logique-là, on ne la connaissait pas a priori et qu'il fallait la découvrir en l'observant et qu'il y avait des méthodes d'observation dans la psychothérapie, ce qui est génial.
C'est ce que je dis dans le début de la question, et ça me paraît tellement stressant comme job. Je me dis, quand tu rentres chez toi, tu dois être déprimé au bout de ta vie. Comment tu le vis, ça? Parce que, comment tu vis ce métier dans ta vie perso?
Oui, alors après, ça va être une réponse vraiment individuelle. Je ne veux pas mettre tout le monde dans le même panier. Mais moi, je pense que déjà, d'une part, j'ai une capacité à... Les capacités, je ne sais pas si c'est un terme... bien quoi, mais je sais pas si c'est bien ou mal, mais j'ai une capacité à recevoir de la souffrance, enfin à la recevoir déjà la mienne, je pense, dans ma vie, et ensuite celle des autres. Ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure, c'est que à partir du moment où j'ai vu que j'aimais les gens et que j'aimais les aider, c'est que je me suis rendu compte que j'aimais la merde dans laquelle ils étaient. Enfin, je sais pas, c'est bizarre ce que je suis en train de dire, c'est trash, mais en fait, vous êtes dans la merde, j'y viens avec vous. Et voilà, on va faire ça ensemble. Et oui, c'est quand même lourd, mais j'ai l'impression que tous les jours, je suis comme ça. Enfin, moi, d'une manière générale, je ne dis pas que je suis badante, etc., et que je pense qu'au négatif, mais j'en ai conscience. C'est là, c'est présent. Et là où d'autres choses me déprimeraient, en tout cas dans le milieu de la psychologie et du handicap, je ne suis pas du tout fataliste ou défaitiste, et je ne suis pas déprimée quand je suis au contact des personnes... ou des problèmes des personnes. Ça peut m'arriver, bien entendu, mais ça ne me rend pas malheureuse, en fait. Pas du tout. Et même, au contraire, j'ai peut-être un biais d'optimiste. Je suis très optimiste. Très, très optimiste. Et surtout, pour répondre à ta question beaucoup plus... de manière beaucoup plus franche, au-delà des aspects individuels, je pense que le fait de me reposer sur des techniques... sur des compétences, sur des équipes, sur des gens qui m'aident, sur de la recherche, sur les sciences, et ben ça me permet très très concrètement de ne pas être malade à chaque fois que je repars chez moi, parce que je sais à peu près ce que je fais, pourquoi je le fais, en tout cas j'ai les moyens de me poser les questions. En tout cas, il y a des techniques et je me repose sur ces techniques, et bien entendu je reçois pas tout moi en tant que personne.
Et ton parcours, là, de tout ce que tu racontes, ça semble parfaitement lisse. J'ai l'impression que depuis que t'es petite, tu veux aider les autres. Ensuite, tu as eu le côté langage qui est arrivé. T'as jamais eu de doute sur ton parcours, de savoir ce que tu vas faire, de regarder les autres. Je sais pas, tu t'es pas dit, mince, peut-être que je vais devenir, je sais pas, pompier ou autre chose.
Mais en fait, non, parce que ça a été lisse, oui, dans ma volonté, mais quand j'ai découvert le métier de psychologue à travers mes études, j'ai détesté mes cours, en fait. Et à un moment donné, c'était tellement flou et ascientifique au possible, c'était genre, on aurait dit de la littérature, donc pas ce que j'aimais. On pourra en reparler si tu veux, mais enfin, c'était pas très scientifique les cours de psychologie que j'ai eus, alors que c'est censé être quelque chose de scientifique, de rodé, que j'ai douté et que je me suis dit, je vais faire de la recherche. Enfin, je vais faire un truc qui me permettra de faire de la recherche. Donc, j'ai fait de la psychologie sociale pendant une demi-année. Et puis là, ma prof m'a arrêtée et m'a dit « Mais t'es pas en train de faire une thèse, là ? Là, ton but, c'est juste d'avoir ton master. » Et moi, je m'étais lancée dans un truc qui ressemblait à une thèse, en fait. Et je me suis dit, en fait, je me suis gourée. En fait, ce n'est pas juste que c'était plus lisse, c'est que je me suis trompée. Et donc, je me suis dit, bah, tu vas t'arrêter là. Et ça m'a tellement perturbée que je me suis dit, je vais faire psychomote. Et ensuite, je ferai psychologie et psychomote. Parce que je me suis dit, j'ai besoin d'un truc concret, d'être au contact avec les gens, d'aider vraiment physiquement, tu vois. Et j'ai bossé rude, j'ai eu une super note, mais on n'était que 5 sur 200 à être pris et je n'ai pas été prise au concours. Et c'est le seul moment dans mon parcours où j'ai douté, mais ça faisait partie d'un doute qui m'a permis de faire un choix ensuite pour avoir mon master, donc de psychologue de développement, du développement de l'enfant et de l'adolescent. Et après, j'ai découvert ce que je voulais vraiment faire dans la psychothérapie. Et c'était des cours, tout simplement, que je n'avais pas eu en psychologie. Donc, comment je pouvais savoir ce que je voulais faire alors que je ne l'avais pas encore découvert, tu vois. Donc, voilà. Mais je pense que c'est un peu comme tout le monde. J'ai suivi une route. Et peut-être qu'elle paraît de l'extérieur un peu lisse et linéaire. Mais ça reste une route avec des questionnements. Mais c'est sûr, c'est pas des grands écarts, quoi. J'ai pas fait psychologue, boulangère, et, je sais pas moi, ou pompier, effectivement. C'était pas. Et encore, je dis des grands écarts, mais quelqu'un, une seule personne pourrait trouver des liens entre ces trois métiers et expliquer pourquoi il a fait ces écarts. Pour moi, il n'y a pas de souci.
C'est vrai, c'est vrai.
En tout cas, pour te répondre, je dirais que je sais pas si c'est lisse, mais en tout cas, j'ai toujours eu une réflexion sur moi sans arrêt. Donc, je pense que c'est ça qui donne l'impression que c'est lisse. C'est que je suis en permanence en train de raisonner sur ce que je veux faire et de réajuster. Et ce qui doit paraître lisse aussi, c'est que j'avais un but dans la vie, c'est déjà d'avoir une activité, un métier très concret, en fait. J'ai beaucoup souffert dans mes études de rien faire de concret. Je ne sais pas comment t'expliquer ça, mais...
Ouais, je comprends bien, ouais. Je pense que pas mal de personnes l'ont vécu, moi aussi, en école de commerce, donc rien à voir. Mais tu sais, on a toujours des cours sur le marketing, etc. Et tu as l'impression de se demander, mais c'est quoi on fait quoi vraiment dans la vie de tous les jours, quoi. Ça paraissait tellement théorique et inutile que ouais, je me posais pas mal cette question aussi, ouais, de me dire, j'ai vraiment envie que ça soit plus concret. Donc, tu étudies, tu lis des livres, tu te renseignes énormément sur le fait, je sais pas, d'aller bien, d'être content, de pas trop stresser, pas trop être déprimé, enfin, je sais pas. Donc, je me dis que toi, tu es super content, tu vis la vie super bien parce que tu as toutes les techniques pour aller bien.
J'ai envie de dire oui, même si c'est exagéré la formulation que tu emploies.
Oui,
tout n'est pas beau. Mais moi, j'estime que j'ai la chance de pouvoir tous les jours m'entraîner à aider les autres et donc à m'aider moi-même. Tu vois, enfin, j'ai la chance de m'exercer, par exemple, à être empathique et compassionnelle, à avoir de la compassion et de la compassion, pardon. Et quand tu en as pour l'autre, systématiquement, tu en as pour moi. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que ça marche. Donc, quand je fais du... J'allais dire, quand je fais du bien aux autres, je me fais du bien, mais en fait, je ne leur fais pas que du bien, parce que des fois, on aborde les choses douloureuses. Mais pour moi, c'est une vraie compétence de savoir recevoir ce qui est douloureux, de le prendre, de savoir que des fois, c'est très compliqué. Donc, j'ai envie de dire oui, mais de nuancer, ouais, en disant... Dans ma vie, elle est pas toute rose, loin de là, mais en tout cas, j'ai la chance de pouvoir maintenir dans mes valeurs, dans mes besoins, un minimum de bonheur, en fait. Il y a des valeurs que je peux atteindre tous les jours, des valeurs et des besoins qui sont pas forcément liés au bonheur, d'ailleurs, hein, mais des valeurs et des besoins qui sont contentés tous les jours, avec beaucoup de bienveillance. Parce que l'amour que j'ai pour les autres, je l'ai pour moi, honnêtement. Je sais pas, je pense pas que ce soit du narcissisme ou du le, enfin voilà, j'ai pas de, enfin j'espère pas de tromper la personne ici narcissique, mais j'ai beaucoup de bienveillance envers moi-même, quoi.
D'accord. Après, on va passer à un peu une étape plus globale sur le métier. Mais juste, il y a Nicolas, donc l'épisode, je ne me rappelle jamais du numéro d'épisode, 18, je pense. Bon, le titre, c'est « Notre cerveau est complètement biaisé ». Il a parlé de toi, il a parlé de ta chaîne YouTube. Donc, tu as une chaîne YouTube. Qu'est-ce que tu peux peut-être nous en dire plus?
Alors, ce que je peux dire sur ce projet, donc, c'est une chaîne qui s'appelle Epsitemo pour épistémologie et psychologie, mais un peu en verlan, quoi, Epsitemo. Et ce sont des vidéos qui sont pas de la vulgarisation sur la psychothérapie, qui sont au contraire comme une sorte d'exercice d'application de l'épistémologie à la psychothérapie et qui m'aide dans ma thèse. Et tout le monde n'y a pas accès, donc ça, c'est important de le savoir. Mais je suis étonnée parce qu'il y a des personnes qui ne connaissent rien de la philosophie de la psychologie et qui, je ne sais pas pour quelles raisons, arrivent par l'esthétisme de la vidéo ou les mots que j'emploie à accéder à certaines choses, à comprendre certaines choses et à aller se renseigner. Donc voilà, c'est un peu un kiff pour moi. C'est aussi pour partager avec des personnes qui sont peut-être déjà à un niveau avancé en philosophie. Mais mon but, après cette troisième vidéo ou en parallèle, c'est de faire de la vulgarisation sur le développement personnel, voilà, et sur la psychologie. Parce que, en fait, dans l'épistémologie, donc il y a l'idée de la connaissance. Et le développement personnel partage avec la philosophie et l'épistémologie le goût des connaissances, la connaissance de soi, ça on en parle beaucoup dans le développement personnel, et la connaissance tout court en fait, la connaissance qu'on va pouvoir utiliser, manipuler, la connaissance qu'on a déjà, la connaissance qu'on va développer, qu'on va confronter à d'autres, etc. Donc là, mon but, par exemple, pour une prochaine vidéo, ce sera d'expliquer pourquoi la pensée positive peut amener des effets négatif au contraire. Donc la pensée positive, c'est cette stratégie mentale d'auto-persuasion que je suis capable, que je vais bien, que je suis une bonne personne, pour essayer d'avoir un impact dans les situations difficiles ou dans la vie. Et donc je vais essayer de démontrer en faisant notamment vivre une expérience en direct, ça j'aimerais vraiment, vraiment beaucoup le faire, de démontrer déjà qu'on fait des prédictions et des paris et qu'on croit fortement que nos pensées peuvent influencer les choses, et ensuite démontrer à l'aide de connaissances qui sont fondées scientifiquement que finalement la pensée positive peut devenir une vraie obsession et aggraver, voire déclencher des troubles en fait, des troubles de l'anxiété, des ruminations.
Je vous coupe pour vous dire qu'on a tourné cet épisode de podcast il y a quelques semaines, donc la vidéo que Clotilde mentionne, elle est maintenant en ligne, elle s'appelle Piège psychologique, l'illusion de la boussole intérieure. Et c'est une vidéo un peu spéciale parce que j'apparais dedans et je suis au cœur de son expérience. C'est une expérience que vous pouvez vivre avec moi en regardant la vidéo. Vous pouvez vous mettre dans la même situation que moi, vous pouvez fermer vos yeux et écouter ce que Clotilde vous dit et voir les réactions que vous avez. C'est un peu une expérience de pensée. Donc je vous encourage à aller voir cette vidéo sur sa chaîne Epsitemo. Et ensuite, je voulais profiter de ce moment pour vous remercier pour votre écoute, pour vous remercier pour toutes les écoutes depuis le début du podcast. Et je voulais aussi vous dire que j'envoie un courriel tous les dimanches aux gens qui veulent aller plus loin, aux gens qui veulent découvrir les coulisses du podcast, qui veulent découvrir peut-être des choses qui peuvent changer leur vie. Ben j'envoie quelques pensées le dimanche. Pour vous inscrire, c'est le lien en description. Et je vais aussi mettre le lien de la page YouTube de Clotilde. Donc en description, vous aurez tout. Encore merci et bonne écoute.
C'est la parfaite transition pour peut-être la partie sur le développement personnel, parce que, enfin, développement personnel, psychologie, philosophie, un peu tout ça. Parce que c'est ce que je t'ai dit avant qu'on tourne. Moi, je sais pas si je peux dire énervé, mais ça me remonte de lire du Tony Robbins ou de voir des chief happiness officers dans mes entreprises qui me disent qu'il faut que je sois content, qui calculent limite mon bonheur. Pour revenir sur Tony Robbins, j'ai lu ses livres, il y a Pouvoir illimité notamment, et j'ai toujours eu du mal à. J'avais toujours l'impression d'être. Je m'en voulais limite à moi-même. Je me disais, mince, je suis pas content, ça va pas. J'ai pas trouvé de sens à ma vie. Il faut que j'en trouve un, parce que si j'en trouve pas un, bah, je vais jamais être heureux, parce que tous ces gens du dev perso, bah, ils disent qu'il faut que je trouve un sens à ma vie. Donc c'est frustrant, moi j'en ai pas. Et il y a un moment où j'étais en bad total, où je dormais très mal, je me posais des questions. Et tu sais, c'est exactement comme tu dis, où je restais bloqué sur cette idée-là et j'arrivais pas à en sortir. Ouais. Il fallait que je trouve un sens à ma vie, parce qu'il fallait que je sois content et que je sois heureux. Et c'était le seul moyen, la clé de ce bonheur. C'était d'être tout le temps heureux, de trouver ce sens à ma vie. Donc, c'est quoi le problème avec ça ? Est-ce que j'ai raison ? Est-ce qu'il y a un problème ? Est-ce que ma sensation est forcément bonne, ce que je la ressens ? Mais est-ce que c'est raisonnable de penser ce que je pense ? Que c'est. Ouais, c'est
ah, complètement. Je pense que tout le monde peut se retrouver dans ce que tu dis, et moi la première. Et même en étant psychologue, et même en sachant ce que je sais, c'est-à-dire qu'il y a quand même. Aussi toute une culture autour du bonheur. Et en plus, il y a des études et des connaissances qu'on a sur la psychologie positive, on appelle ça comme ça, et la psychologie cognitive, donc les capacités à rendre heureux et à se rendre heureux, et les capacités tout court du cerveau, qui vont parfois alimenter à tort, en fait, cette course au sens, à la vie et au bonheur. Et cette obsession, parce que là, tu parles vraiment d'obsession, je me lève le matin et je pense à ça. Et donc, mais comme tout dans la vie, en fait, n'importe quel sujet pourrait devenir une obsession ou aggraver un problème. Et c'est pour ça que c'est important de bien faire la différence entre le développement personnel qui est fondé sur rien du tout, en fait, sur aucune... Enfin, ou qui est fondée sur, qui est interprétative d'études scientifiques, mais du coup qui est erronée, d'un développement personnel qui est vraiment fondé sur les sciences et qui respecte vraiment les études scientifiques et ce qu'elles disent sans extrapoler et sans généraliser, tu vois. Si par exemple, il y a une étude qui montre que plus on est bienveillant avec, avec les autres, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, très concrètement, qu'on dit... 3 mots gentils dans la journée à quelqu'un et qu'on est honnête et qu'on le ressent, etc., et que ça améliore notre humeur, ça ne veut pas dire qu'il faut trouver un sens à sa vie, sinon on va être malheureux, tu vois. Enfin, c'est ce genre d'extrapolation qui est très dangereuse et qui sont très faciles. Et c'est parce qu'elles sont très faciles qu'elles sont risquées et dangereuses. Le développement personnel dont tu parles, on l'a déjà en nous, en fait. Et il y a juste des gens qui font que nous le rappeler. On a déjà ce réflexe et ces biais-là de se dire qu'on peut se rendre heureux, qu'on a le pouvoir, qu'on a le libre arbitre, hein, le déterminisme, ça c'est quelque chose, l'autodéterminisme, c'est quelque chose de très important dans le développement personnel et de très casse-gueule. Parce qu'effectivement, l'autodéterminisme, ça existe, on peut agir effectivement pour s'autogérer, et pour s'aider soi-même et s'auto-organiser. Mais on a des limites quand même. Ça existe, mais il existe aussi des conditionnements qu'on ne connaît pas, que le développement personnel, des fois, ne connaît pas, n'explicite pas, des conditionnements dans lesquels on est tous. Et si on ne les connaît pas, bah, on va tout le temps avoir l'impression qu'on n'y arrive pas, en fait. Si, par exemple, tu n'arrives pas à avancer sur un projet parce que tu es angoissé, okay, et que cette angoisse t'empêche littéralement de faire ça, tu peux te dire que t'es pas assez convaincu, convaincant et volontaire, tu vois, et que t'arrives pas à t'auto-persuader, et que c'est peut-être parce que t'as pas trouvé le bon sens à ta vie, et peut-être que ce travail, en fait, c'est pas ce que tu veux faire, etc., etc., et tu vas t'écarter littéralement d'une réalité qui serait un peu plus terre-à-terre, qui pourrait être simplement que plus t'angoisses, plus tu repousses, plus t'angoisses, et etc., etc., et qu'en fait, c'est un conditionnement. Rien que ça, c'est un conditionnement. C'est une loi. C'est je veux être soulagée, je veux pas ressentir de l'anxiété, donc je fais pas mon travail. Et comme ça marche, ben, je recommence. Comme ça marche, comme je suis rassurée, je recommence. Malheureusement, c'est autre chose qu'une histoire de volonté, de sens à sa vie. Et des fois, c'est beaucoup plus observable, fondamental. Et ça veut pas dire que c'est plus mineur ou plus simpliste ou plus bébête. Au contraire, tant mieux si on a, la possibilité d'avoir des termes moins flous et de pouvoir observer ce qui se passe littéralement, comme ce que je te disais tout à l'heure. Donc, le sens à la vie, ça veut... c'est subjectif, ça veut tout et rien dire.
Ouais, il y a le sens à la vie, mais il y a aussi donc le positivisme d'être tout le temps heureux. Il y a un livre qui s'appelle « La dictature du bonheur », je crois que c'est le bon titre, je ne sais plus l'auteur. Ouais. La dictature du bonheur, mais c'est exactement ce que je ressentais. J'avais l'impression qu'il fallait que je sois heureux. Tu sais que dans ma boîte mail du travail, je reçois toutes les semaines un mail qui m'explique comment être heureux. C'est quand même... c'est fort, quoi. Et d'ailleurs, j'ai oublié de me inscrire, je supprime à chaque fois, mais ils payent une entreprise pour qu'ils nous disent tout le temps comment être heureux. Et ouais, en quoi cette dictature du bonheur peut être mauvaise?
Ouais, on peut parler de dictature du bonheur. Il y a des sociologues qui parlent de tyrannie du choix ou de la tyrannie de la liberté. J'adore ce terme. C'est genre, tu vas dans un magasin et t'as 20 000 paires de baskets et t'as tellement de choix que tu peux être déprimé et insatisfait même si t'as fait un choix qui était un choix qui t'appartenait. Mais juste peut-être que tu t'es trompé et que t'as pas fait le bon choix. Alors ça te déprime. Et peut-être que t'aurais pu être plus heureux. Mais en fait, c'est ça pour moi la tyrannie et la dictature de la liberté. Peut-être que tu pourrais être plus heureux et peut-être que tu pourrais optimiser ton bonheur. Et ça n'est absolument pas le but, par exemple, ni d'une psychothérapie, ni selon moi du développement personnel. C'est pas d'être encore plus heureux que ce qu'on est heureux. Enfin, c'est pas comme ça, en tout cas, que je le définirais. Donc, c'est le danger de la dictature du bonheur, c'est de créer des obsessions, d'aggraver des troubles, littéralement, hein, des troubles de l'anxiété, de la dépression. Ça, c'est du point de vue psychologique, hein, parce que je peux parler que pour ça. De culpabiliser les gens, en fait, de culpabiliser. Et c'est un truc qui est déjà en nous, encore une fois, j'insiste. C'est-à-dire que les mails que tu reçois tous les jours, bah, si ça te fait un effet, c'est parce qu'au fond de toi, il y a déjà potentiellement ce raisonnement, tu vois, de te dire, peut-être que je pourrais faire mieux, peut-être que je pourrais être plus heureux, tu vois. On a déjà cette, et c'est normal, cet élan de pouvoir être plus heureux, sans doute parce qu'aussi on a des conditions qui sont favorables pour en avoir envie, et parce qu'on le voit. Mais du coup, on a déjà ce réflexe. Par exemple, moi, quand je reçois des patients, la plupart, enfin, quand je dis la plupart, on dirait que je suis en train de généraliser, mais moi, ce que j'entends et ce que je comprends, c'est toujours une culpabilité de « je pourrais m'en sortir par mes propres moyens et pourtant, j'y arrive pas et je comprends pas. » Ou alors, « j'ai tout pour être heureux et pourtant, je le suis pas. » Mais je suis même pas sûre que ce soit une bonne idée de venir vous voir parce que je pourrais peut-être y arriver tout seul ou peut-être c'est pas si grave et que vous avez pire que moi. Les gens sont toujours incroyablement gentils et bienveillants pour les autres et beaucoup moins envers eux. Enfin, c'est ce que je ressens. Et plus ils vont lire des choses sur le développement personnel comme tu le décris, plus ils vont se culpabiliser. Enfin, moi, c'est ce que j'ai pu constater en se disant « j'y arrive pas ». Vraiment, littéralement, « j'y arrive pas, je suis en échec ».
Ouais, je pense donc, que j'ai déjà ressenti ça, de ne pas y arriver, d'être en échec. Ouais, t'as l'impression que t'as perdu quelque chose, t'as perdu la bataille.
Et donc, s'imagine des gens qui sont déjà déprimés ou qui ont déjà ou qui sont dans un contexte comme Covid, etc., qui peut, chez eux, en tout cas, déclencher des humeurs qui vont baisser ou l'anxiété, bah, et qui se mettent à tous les jours regarder des trucs de développement personnel en se disant ah, je vais y arriver, il faut que je trouve un sens à ma vie. Peut-être sur le moment, ils vont trouver un truc intéressant, mais sur le long terme, en tout cas, ça peut aggraver leur trouble. Et ça peut être vraiment obsessionnel, en fait. Moi, quand tu dis tyrannie, dictature, moi, ce à quoi je pense, c'est le côté obsessionnel, en fait, vraiment.
Ouais, plus t'en lis, plus tu te poses des questions, plus tu veux en relire sur le sujet, plus tu te poses des questions, et ça tourne, et ça tourne, et c'est un cercle vicieux. Au tout début, tu dis ça devrait pas être le but du développement personnel, si j'ai bien compris. Mais alors, quel devrait être le but du développement personnel?
Ce que je pense, c'est que... pas que moi qui le pense, parce qu'en psychothérapie, ça marche comme ça aussi. Et finalement, si on prend un développement personnel qui est fondé sur les sciences, on irait plus parler d'autogestion plus que d'amélioration ou de trouver le sens à sa vie, en fait. Ce que je t'ai envoyé un bouquin, du coup, que tu as lu sur justement ce que c'était que l'autogestion ou la gestion de soi. Et je pense que tu as dû comprendre la différence qu'il y avait entre la gestion de soi et une forme de liberté sans bornes, dans un monde sans limites où on pourrait trouver un bonheur sans limites. Tu vois ce que je veux dire? La différence entre les deux, c'est que dans la gestion de soi, on est en train d'aménager sans arrêt des choses, maintenir un équilibre pour répondre à des besoins, pour répondre à des valeurs, selon les contraintes de l'environnement, selon ses limites, selon ses capacités. Voilà, selon ce qu'il est possible de faire tout de suite maintenant et pas plus, en fait. Ça me paraît pas stupide d'imaginer que les personnes qui vont lire du développement personnel sont à la recherche d'un mieux-être quelque part, tu vois, qu'ils recherchent, voilà, peut-être quelque chose leur manque ou quelque chose est insatisfaisant pour eux dans le minimum des problèmes, tu vois. Après, il peut y avoir des gens qui ont vraiment des gros problèmes qui vont dans le développement personnel, mais même au minimum, il y a un petit truc qui va pas ou qui est insatisfaisant ou qui plaît pas, et vouloir l'effacer ou vouloir le combler totalement en recherchant un bonheur ultime, en mobilisant ses ressources d'auto-persuasion, bah, ça peut les faire entrer dans des troubles. Moi, j'irais jusqu'à dire ça, en fait. alors que finalement, on pourrait leur expliquer que ces problèmes qu'ils ont peuvent être régulés ou autogérés, c'est-à-dire organisés dans la situation où ces problèmes apparaissent, parce que chaque situation est différente et qu'on ne peut pas régler un problème précis dans une situation avec une seule solution qui répondrait à toutes les situations du monde, tous les problèmes, tu vois. Se dire, si tous les matins je me lève et que je me dis que je suis une meuf hyper géniale et que je suis hyper douée, et si je fais ça, je vais répondre à tous mes problèmes, ça c'est faux en fait, c'est faux. Et c'est pas de l'autogestion, c'est de la persuasion, c'est de la croyance. On est vraiment dans presque de l'ésotérisme. Alors que le développement personnel, il doit pouvoir nous aider à gérer ce qui ne va pas et à le gérer par ses propres moyens en trouvant des solutions qui soient des solutions applicables et précises, en fait. On prenait l'exemple tout à l'heure de ne pas réussir à travailler sur un projet et d'être anxieux. Si je pense résoudre ça en lisant du développement personnel et en voyant la vie différemment, en me disant finalement il n'y a plus grave que ça, allez c'est pas grave, et en relativisant ou en me disant que je dois croire en moi, ça, on n'est pas en train du tout de répondre précisément au problème d'anxiété et de gestion d'anxiété. On est en train de répondre à autre chose, à une autre réflexion, tu vois ce que je veux dire ? On est en train d'éviter finalement le vrai pourquoi je suis allée lire du développement personnel ou le vrai problème. Je ne sais plus qu'est-ce que c'était ta question de départ. Qu'est-ce que devrait être le développement personnel ?
Quel devrait être le but, ouais. Mais justement, donc, de ce que je comprends, de ce que tu dis déjà, c'est qu'on ne devrait pas parler de limite de chercher le bonheur. On devrait plus parler d'apprendre à mieux se gérer soi-même. Ce sera un terme un peu plus raisonnable. Et ensuite, tu dis que chaque problème est quand même spécifique et il y a une réponse spécifique. Le problème, c'est que quand on écrit un livre ou quand on fait une vidéo avec des millions de vues, on ne peut pas répondre à des problèmes spécifiques. On dit des phrases quand même générales parce qu'on parle à la masse. Comment dans le développement personnel, ils peuvent parler à la masse et à la fois répondre à des problèmes spécifiques ? Oui. J'ai l'impression que les deux ne vont pas ensemble.
Oui, parce qu'en fait, même si les réponses sont spécifiques, il y a quand même des lois générales qui permettent d'analyser ces problèmes spécifiques. Je ne sais pas si tu me suis. En fait, c'est même parce qu'il y a des lois générales et une observation, une méthode d'observation générale et globale, qu'on va pouvoir mieux voir les différences, tu vois. En gros, pour mieux voir ce qu'il y a de différent en toi et de ce qu'il y a de particulier en toi, il vaut mieux qu'on ait une structure de base dans laquelle on t'observe pour mieux voir ces différences que de calquer un truc global sur toi et le répéter à chaque fois. Donc, c'est une très bonne question. Donc, je pense que tout simplement, pour réussir dans le développement personnel à apprendre aux gens à mieux s'autogérer, il faut leur apprendre ces lois générales sur la psychologie. En fait, il faut leur apprendre comment fonctionne la psychologie chez l'homme, en fait. Okay. Qu'est-ce que c'est qu'une pensée ? Qu'est-ce que c'est qu'une émotion ? Pourquoi une émotion peut agir sur ma pensée ? Pourquoi et comment une pensée peut agir sur mon comportement ? Et comment on peut observer ces choses, ces séquences, pensée, émotion, comportement ? Et comment je peux finalement m'observer et comprendre ce qui se passe ? Alors, on ne sera jamais un psychologue expert de ses propres problèmes, mais on pourra déjà observer des choses et les observer avec beaucoup plus de réalisme et beaucoup moins de culpabilité. Peut-être que ça, c'est déjà un premier challenge, en fait, tu vois. Mmh. C'est important de rappeler que s'il y a vraiment une souffrance et une détresse, le développement personnel, c'est pas ce qu'il faut. Il faut aller voir un thérapeute, en fait, vraiment. Si tu vois la question là de... c'est quoi le sens à ma vie, et tu l'as tous les matins et ça t'empêche de vivre, ça te déconcentre dans ce que tu fais, tu as une humeur plus basse, etc., et ça se répète depuis des années, moi je te le dis, va voir un psy et continue pas à lire du développement personnel et ou à même me poser des questions à moi, tu vois, parce que après c'est un cercle sans fin, mais c'est vrai que la limite elle peut être mince. Dans la psychothérapie on fait de la prévention de rechute, et dans ce cas là on peut faire du développement personnel, en tout cas, on peut donner des outils de gestion de soi, parce que la personne, elle a compris vraiment comment elle fonctionnait. Mais c'est après. En tout cas, pour répondre à ta question et réinsister là-dessus, pour apprendre à s'autogérer, il faut apprendre à s'observer, il faut apprendre ce que c'est que la psychologie, et comment ça fonctionne. Et comment ça fonctionne à partir de lois, en fait. De lois.
Parfaite transition, justement. Pour, c'est le moment de l'épisode où, quand les gens vont sortir, ils vont savoir super bien se gérer. Parce que quelles sont ces lois? Dis-nous. On veut savoir, on veut être content.
Comme toute loi, on peut comprendre la base et après, il faut s'entraîner, il faut approfondir, etc. Alors, je ne vais pas faire un cours de psychologie quand même.
Non, mais on est la recherche sur ces lois et qu'est-ce qu'on a trouvé, quoi. Qu'est-ce qui peut nous aider? Des petits trucs simples, des petits tips qui sont vraiment prouvés, quoi.
La psychologie comportementale va nous permettre de découvrir des lois du conditionnement, c'est-à-dire de se rendre compte que on fait des apprentissages et plus on fait des apprentissages, plus on agit dans un sens et pas dans un autre. Donc il y a plusieurs lois, mais mon but c'est pas de les décrire, mais en gros on essaie de s'adapter et d'être le plus heureux possible. Et en s'adaptant, on apprend des choses. Et quand on apprend ces choses-là, on va soit les répéter, soit les éviter. Donc, en psychologie, on se sert beaucoup, par exemple, d'une loi qui s'appelle le conditionnement opérant, qui est simplement le fait d'avoir découvert qu'on sait qu'on peut agir dans nos comportements sur des conséquences à venir. Par exemple, je sais que je peux éviter d'être angoissée si je ne réponds pas à ma banquière qui m'appelle. Ça, c'est vrai, en plus, c'est une vraie anecdote d'aujourd'hui. Donc, je sais que je peux éviter une conséquence négative en ne répondant pas. Et le truc qu'on a découvert, c'est que ça a un effet. C'est que du coup, comme ça me soulage, je vais d'autant plus augmenter la probabilité de ne pas répondre à ma banquière demain. Parce que ça a marché, OK ? Et ça marche aussi pour les conséquences positives. Si je sais qu'en répondant... je vais avoir une bonne nouvelle et qu'on va m'offrir de l'argent, comme ça qu'on me dit que je vais avoir 10 000 euros, je pense que ça va augmenter ma probabilité de répondre au téléphone et au numéro qui ressemble au numéro qui m'ont offert de l'argent. On apprend comme ça, en fait, au fur et à mesure, on fait des apprentissages pour s'adapter. Et ça, c'est important de le dire, c'est pour s'adapter. Sauf que des fois, en s'adaptant, on répète des schémas, des comportements, des pensées, des émotions, on répète des séquences qui vont en fait empirer la situation dans laquelle on est. J'aime bien prendre l'exemple du stress post-traumatique parce que ça aide les gens vraiment à comprendre. Mais si par exemple, là tout de suite maintenant, pendant qu'on a une visio, il y a un gars qui rentre et il y a des terroristes et tout explose, ma mémoire, elle va enregistrer tout ce qui s'est passé. Du coup, il est possible que dans une situation similaire, je mette en place des comportements d'évitement. Et quand je dis similaire, c'est pas que les terroristes reviennent, hein, c'est que j'ai une visio avec toi et que je veuille pas faire la visio parce que y a des choses qui ressurgissent et que j'ai bien appris que quand je fais une visio, peut-être il y a des terroristes qui vont venir et qu'il vaut mieux que j'évite la visio et que je me casse et que voilà. Et donc finalement, des fois, je vais apprendre des choses qui sont fausses, en fait, parce qu'il y a une réaction d'alarme ou des pensées qui sont erronées ou une réaction d'alarme qui est trop exagérée par rapport à la réalité. Mais c'est une réalité en soi de ressentir ce que je ressens. Attention, je ne suis pas en train de minimiser ce que ressentent les gens. Ce qu'ils ressentent est affreux, mais si là, tout de suite, maintenant, j'ai l'impression que je vais mourir, bon, il n'y a pas de raison, normalement, que je le ressente. Ce n'est pas normal. Et le truc, c'est que ça peut se généraliser. C'est-à-dire, ce qu'on a découvert, c'est que plus je vais éviter des situations dans lesquelles je suis mal, plus je vais éviter des situations tout court qui pourraient ressembler à des situations similaires à celles qui m'ont fait du mal, et du coup ça va amener à une restriction d'activité tout simplement et à une restriction du bonheur tout court pour aller encore plus rapidement en fait dans ce sens-là. Et donc ça, on peut l'avoir, ces logiques de conditionnement, on peut les avoir en interne juste avec des pensées entre elles. On peut juste tout simplement avoir une pensée qui déclenche une autre pensée qui va déclencher une autre pensée, et je vais faire que éviter des pensées comme ça tout le temps. Et il ne se passe rien à l'extérieur, mais ça peut m'embêter, me parasiter, littéralement. Pas forcément obliger qu'il y ait un terroriste, un truc qui se passe. Je peux le faire toute seule dans ma tête, ça, en fait. C'est pour ça que je dis que ça peut se complexifier.
Ce que tu disais au début, tu disais que parfois on a un ressenti sur la réalité qui n'est pas forcément la réalité. J'ai l'impression que ça rejoint un peu ce passage-là. Donc l'idée, ça serait de se poser la question... est-ce que ce que je ressens, c'est vraiment raisonnable de le ressentir? Est-ce que, en fait, peut-être mettre carrément, se parler à la troisième personne ou prendre un peu de recul par rapport à soi-même. C'est ce que je comprends là de ce que tu dis.
Exactement. Mais ça, on ne peut pas le faire si on ne découvre pas le conditionnement duquel on souffre, j'ai envie de dire. Okay,
ouais.
On est prisonné dans un truc et on a les moyens de découvrir c'est quoi. C'est quand même génial, tu vois. C'est quand même super. Les personnes qui disent « mais non, le conditionnement, ça n'existe pas, on est tous libres de faire ce qu'on veut », ils loupent une chance extraordinaire de réellement s'émanciper de contraintes qui existent vraiment. Tu vois ce que je veux dire? C'est très dommageable. C'est pour ça qu'au début, en psychothérapie, désolé, je ne parle pas du développement personnel, mais le développement personnel doit pouvoir s'appuyer là-dessus. Il faut constater qu'il y a un problème. Il faut constater qu'il y a un souci, qu'on est dans l'impasse. Si on ne constate pas ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut agir? C'est impossible. On est en train de, comme je te disais tout à l'heure, de répondre à autre chose, de répondre à une autre problématique. Donc, ouais, c'est découvrir comment on est emprisonné. Okay, là, tout à l'heure, tu me disais, j'ai cette pensée qui me vient le matin. Déjà, il y a peut-être un conditionnement avec le fait que je me lève et que j'ai cette pensée. C'est peut-être associé comme ça. Parce qu'au début, j'étais anxieux un matin, j'y ai pensé. Et en y réfléchissant, ça m'a soulagée sur le moment parce que j'ai eu des solutions qui ont émergé. Et du coup, comme ça m'a soulagée, j'ai continué à discuter avec moi-même dans ma tête. Sauf qu'à long terme, ça a maintenu mon angoisse, ça m'a donné encore plus d'informations qui m'ont encore plus perdue. Et du coup, je recommence parce que quand même, parmi tout ce brouhaha, des fois, ça me soulage. Okay, ça me soulage et je saurais dire exactement qu'est-ce qui me soulage. Par exemple, je pourrais te poser la question, quand tu te demandes quel est le sens de ta vie, est-ce qu'il y a des raisonnements, des réponses que tu as ensuite dans ta tête ou des questions qui peuvent, comme ça, littéralement, sur le moment, te soulager un peu? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Est-ce que tu l'as déjà ressenti?
Ouais, que je vais mourir. Je me disais, okay, je vais mourir, dans toute façon, on s'en fout. Et hop, là, je me reposais la question. C'était un peu
un exemple de moment où tu n'en peux plus de réfléchir et tu en viens à la solution ultime. De toute façon, je vais crever, alors basta. Et hop, on a vu la réponse.
Ça me dérangeait même pas, tu sais, c'était rassurant en fait. Je me disais, c'est cool, je vais mourir, donc un jour là, je me poserai plus la question et tout sera effacé.
Et ben ça, c'est du renforcement négatif, donc c'est du conditionnement opérant. Je t'explique pourquoi. Le scénario catastrophique, je vais mourir de toute façon, c'est pas un scénario catastrophique, mais la rationalisation, là, c'est tout à fait rationalisé, mais au même titre que le scénario catastrophique, par exemple, imaginez le pire du pire, ça peut avoir une fonction de réassurance vis-à-vis de l'incertitude. Okay, par exemple, si j'ai peur d'échouer à un examen, je peux passer de longues heures à m'imaginer échouer à l'examen et me dire que au moins, ça me permettra de ne pas être déçue et j'ai prévenu le pire, tu vois.
Okay,
et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est ça. C'est comme la personne qui se tape la tête. Il y a une logique au comportement et une pensée peut être observée comme un comportement parce qu'elle a une logique et qu'elle a une fonction. Et si à un moment donné, ça me rassure de rationaliser et de me dire que de toute façon, je meurs, c'est que la fonction de cette pensée, c'est de me rassurer d'une angoisse qui a émergé parce qu'il y a eu une incertitude qui était « mais est-ce qu'un jour, je vais trouver le sens à ma vie ?» Okay, je ne suis pas en train de te faire une analyse, mais c'est pour te montrer, tu vois, la logique.
Ouais, c'est intéressant, je ne l'avais pas vu. Enfin, j'ai commencé à le comprendre en lisant le livre que tu m'as conseillé, « La gestion de soi ».
Ouais.
Mais c'est que c'est intéressant, mais j'ai l'impression que ça complexifie aussi la chose. Comment on fait? Il y a d'autres lois là pour nous aider? Parce que pense à un truc, on se rassure, mais c'est pas bien parce qu'on s'est rassuré, du coup après on va y repenser.
Non,
parce qu'on veut se rassurer. Donc,
c'est pas que c'est pas bien parce que c'est la meilleure solution que tu trouves en ce moment, à ce moment-là. Donc,
mais elle évacue pas le problème, c'est ça que tu veux dire? C'est ça le problème?
Exactement. Hein. Effectivement, même le maintenir. Mais là, tu es dans une logique de vite trouver une solution. Mais c'est déjà une solution en soi d'observer qu'on a des ruminations et que ça s'appelle comme ça. Parce que finalement, quand tu commences à te poser des questions comme ça sur le sens de la vie et que tu commences à faire des scénarios catastrophes, de rationaliser et que ça finit pas, ça s'appelle des ruminations. Okay, et donc, si tu sais que c'en est, c'est déjà hyper bien. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas ruminer, maintenant, enfin, ou à peu près à chaque fois, tu vas t'en rendre compte. Et s'en rendre compte, c'est déjà avoir un outil, c'est déjà avoir du recul.
Te rendre compte du process, de ce qui se passe dans ta tête.
Grave, et on est déjà en train de s'émanciper de certaines choses, ok? On n'est plus dans la bulle, mais on est un peu en dehors, comme tu disais. On s'observe un peu. Alors, ça ne veut pas dire que tout de suite, maintenant, tu vas avoir la solution. Et d'ailleurs, tu l'as compris, comme c'est des jeux d'apprentissage, tu ne pourras pas t'en sortir comme ça tout de suite. Tu ne pourras pas avoir des tips. C'est impossible. Sinon, c'est comment ? C'est comment ? Et pire encore, si je te dis « crois en toi et dis-toi que la vie est belle », etc., je suis en train de te rajouter des ruminations supplémentaires, des obsessions qui vont aggraver ton trouble. Donc, tu vas perdre plus de temps à vouloir faire un truc plus rapide. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, là, le but... Bon, là, je te parle de psychothérapie. Pour le développement personnel, en fait, le simple fait de comprendre ces lois du conditionnement que tu as lues dans le bouquin, en fait, finalement, parce qu'il en parle à un moment donné, c'est comprendre chez soi les tendances qu'on a, par exemple, les facilités qu'on a de tomber dans certains mécanismes et d'avoir un peu plus de recul, en fait. Mmh. Après, si tu n'arrives vraiment pas à trouver des solutions et que ça t'embête, il faut aller voir un psychothérapeute, tu vois, c'est hyper important.
Dans mon entourage, c'est assez mal vu d'avoir un psychothérapeute pour certaines personnes. Je pense notamment à une personne qui ne veut vraiment pas aller voir un psychologue ou un psychothérapeute et qui dit « Ah non, 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 c'est pas pour moi. » Et exactement ce que tu as dit tout à l'heure, c'est « Non, mais il y a pire que moi, donc je ne vais pas aller faire ça, tu vois. Il y a des cas bien pires, donc s'il y a pire, bah, moi, je n'y vais pas. »
On a toujours la croyance qu'on contrôle les choses. Hein. Ça, c'est, enfin, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui me dit qu'elle ne contrôle pas. Même une personne très dépressive qui va dire qu'elle ne contrôle plus rien, bah, on se rend compte à travers ses comportements qu'elle est sans arrêt en train de contrôler des choses, d'éviter des choses. Donc, en fait, ça ne m'étonne pas que son énergie soit bouffée, quoi, parce qu'en fait, elle a l'impression de rien faire et qu'elle ne contrôle rien. Mais en fait, il se passe plein de choses dans la tête et il y en a des choses qui se passent. Et effectivement, la plupart du temps, on est convaincu qu'on contrôle et qu'on gère. Et c'est pour ça que c'est délicat de se rendre compte qu'en fait, ce qu'on pense gérer peut être une partie du problème, en fait, justement. Et souvent une partie du problème. Si ça se répète, c'est que ce qu'on fait, effectivement, doit maintenir peut-être le souci. Ça ne veut pas dire qu'on fait mal. Encore une fois, ça, c'est très important. On fait ce qu'on peut et du mieux qu'on peut à ce moment-là. Et on ne peut pas tout changer d'un coup, sinon on pourrait être encore plus mal, tu vois. C'est pour ça qu'on ne traite pas les urgences de la même manière que des choses moins urgentes. On a un degré de priorité dans les prises en charge. Des fois, on est obligé de passer aux médicaments. Mais dans le développement personnel, ça ne doit pas être une urgence. Ça ne doit pas être une urgence. Même si on a envie d'avoir... Ce que tu dis là, c'est typique de cette dictature du bonheur. Il faut la solution tout de suite. Tu vois ? Il faut tout de suite. Et si c'est trop complexe... Mais en fait, ce qui est complexe, c'est d'avoir des termes flous et des solutions floues. Et de devoir se débrouiller avec et de réfléchir et de tout tourner dans la tête. Ça, c'est complexe, tu vois. C'est beaucoup plus complexe de se dire qu'il y a des lois qui existent, qu'on les connaît et qu'effectivement, la réalité est moins simple que ce qui paraît, quoi. Et voilà. Mais au moins, on est au courant et on comprend pourquoi, en fait, même en me répétant que je suis une super fille géniale tous les jours, on comprend pourquoi c'est pas aussi simple et que ça marche pas. Et au moins, on se déculpabilise.
Est-ce qu'il y a d'autres avancées de la science pour savoir comment on fonctionne, d'autres trucs vraiment, des gros highlights, des gros trucs importants
On arrive à mettre le doigt sur des processus qui sont transdiagnostiques, c'est-à-dire qu'on retrouve dans tous les diagnostics. Mais ce n'est pas révolutionnaire. Si tu veux, par exemple, les ruminations, on sait qu'elles existent dans l'anxiété, on sait qu'elles existent dans la dépression, on sait qu'elles existent dans d'autres troubles. L'évitement émotionnel dont je t'ai parlé, qui est ce conditionnement opérant d'essayer d'éviter des conséquences négatives ou d'ajouter des conséquences positives, mais là, ce serait éviter des conséquences négatives. L'évitement émotionnel et expérientiel, c'est un processus psychologique qui, en fait, est moteur dans plein de troubles psychopathologiques. Et donc, c'est révolutionnaire dans le sens où, quand on veut expliquer aux gens comment elle fonctionne, c'est plus simple d'expliquer ces processus dans le développement personnel aussi, c'est-à-dire les processus d'évitement émotionnel, processus de rumination, c'est plus simple de passer par là que de refaire toute l'histoire d'un trouble psychopathologique ou de refaire toute l'histoire de la psychologie et des lois du comportement. Tu comprends ce que je veux dire ? Mmh. Tu comprends ce
Ouais, voilà. Je comprends.
Et sauf que le risque, c'est qu'on extrapole encore une fois, tu vois, c'est que... se disent les ruminations, c'est mal.
Et du coup, on rumine encore plus parce qu'on se dit que c'est mal. Donc on...
T'as compris, voilà, t'as compris la logique. Oui, mais ça, c'est un exemple très important parce que, par exemple, il y a des cas de rumination qui ne sont pas pathologiques. La rumination, c'est normal.
Et... pathologique, c'est un terme, je pense qu'on l'utilise beaucoup, mais que pas forcément tout le monde comprend. Je ne suis pas sûr, chez moi, pathologique, des fois, je l'entendais, je me disais, ouais, je sais ce que c'est. Et en fait, je suis allé quand même chercher sur Google.
Pour moi, pathologique, c'est ce qui va signer des critères de sévérité, de gravité et signer l'entrée dans un trouble. Enfin, le fait qu'on puisse parler de trouble. Et tout simplement, ça veut dire que quand ça devient vraiment un problème dans la vie, que ça impacte le fonctionnement de la personne, c'est pathologique, tout simplement. Mais il n'y a pas de... si tu veux, c'est un continuum. Donc, il n'y a pas de... Tout d'un coup, tu es dans une case normale et tout d'un coup, tu es dans une case pathologique, tu vois. C'est un continuum. Et d'ailleurs, c'est comme ça que ça marche. C'est que ça arrive progressivement. C'est pour ça que je te dis que finalement... le développement personnel pourrait en fait aggraver, maintenir ou même engendrer, enfin déclencher des entrées dans des troubles. Voilà. C'est parce que c'est sur un fil en fait. Donc il suffit, par exemple, là, le Covid en fait un facteur de stress. Il suffit de comme dans un mauvais film de regrouper pas mal de facteurs aggravants et déclenchant un trouble et puis tac. Ça fait que tout d'un coup, il y a une pathologie qui arrive, tu vois, parce qu'il y a une limitation, une restriction d'activité, comme dans un handicap, en fait, presque la définition du handicap. Donc, la pathologie, c'est quand je vais tellement mal que je souffre et que je suis vraiment malheureux et que ça impacte ma vie, en fait, et mon fonctionnement. Et là, je peux me dire que c'est pathologique, en fait, tout simplement. Okay. Mais ça reste un terme comme un autre, si tu veux. Là, je l'ai utilisé pourquoi déjà ? Pour dire que voilà, que. Il y a des types de ruminations qui ne sont pas corrélées à l'anxiété et pas forcément ou corrélées à une anxiété qui est tout à fait acceptable. Par exemple, si je rumine sur comment faire pour arriver à réussir mes examens et qu'il n'y a pas une anxiété telle que je fais que me prendre la tête, que je suis déconcentrée, que je me sens triste, malheureux et que ça dure depuis 6 mois, il n'y a pas de mal, tu vois. Et puis après, il y a des ruminations qui sont... liés à des styles cognitifs, on appelle ça comme ça. Donc, il y a des gens qui sont plus ou moins, comme peut-être toi, qui analysent beaucoup plus que d'autres, qui sont plus dans la réflexion. Mais il y a des personnes qui ont un trouble déficitaire de l'attention, pour qui la rumination, c'est un peu le quotidien, parce qu'ils sont très distraits par leurs propres pensées. Et du coup, ils vont souvent ruminer, se poser plein de questions, etc. C'est pas nécessairement pathologique. Peut-être même qu'on pourra appeler autrement que rumination. Mais peu importe le terme, encore une fois, c'est juste pour dire qu'il ne faut pas généraliser le fait qu'on se pose des questions et qu'on ait de l'anxiété à automatiquement un problème. Il faut qu'il y ait un problème pour qu'il y ait un problème, tu vois. Et le risque d'utiliser des termes rumination et de les coller comme ça sans comprendre le problème, encore une fois, c'est de s'inventer des problèmes ou de s'inventer des solutions aussi, pour le coup.
Ouais, après l'épisode de Nicolas, là, je pense que je suis... la tête qui va exploser. En fait... de ce que je retiens, c'est de ma rencontre avec Nicolas, de ma rencontre avec toi, c'est que c'est compliqué les choses et qu'il n'y a pas forcément une solution aussi simple et intuitive qui sort de l'esprit et qu'il faut prendre beaucoup de recul, beaucoup, beaucoup de recul par rapport aux choses et ne pas s'enflammer ou juste rester calme et observer assez froidement ce qui se passe. Et là, notamment le développement personnel où dès qu'il y a une solution, il faut faire attention quand même, attention à cette solution parce que genre la rumination, il faut éviter la rumination, mais attention, parce que ça peut devenir une rumination de vouloir éviter la rumination.
Oui, mais là c'est que toi, tu es en train d'anticiper tout ce que tu pourrais faire, tout ce que tu pourrais ne pas faire. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Ça, il faut le savoir. Il y a des gens qui s'en fichent, en fait, tu vois. Ouais. Ce que me disait un prof, c'est qu'il me disait, mais tu sais, Clotilde, parce que moi, j'ai tendance à être comme ça, ton cerveau, c'est pas forcément pertinent ce qu'il te dit, enfin, entre guillemets, tu vois. Tu peux laisser tomber la plupart
du temps. Sûr, c'est bon.
C'est de la merde. Et mine de rien, je ne sais pas si c'est un effet de contexte ou si c'est lui qui dit, mais en fait, c'est con comme réflexion, mais c'est tellement vrai. Et je me suis dit, je ne suis pas tout le temps obligée de réfléchir et de me reposer sur mes connaissances, quoi. Enfin, juste, voilà. Et on n'est pas tous égaux face à ça, tu vois. Sans doute, toi, tu vas beaucoup réfléchir mais ce qui est certain, c'est que se renseigner, prendre le temps de lire des bouquins comme celui que je t'ai proposé, donc qui est la gestion de soi, De prendre le temps, tout simplement, c'est déjà très bien, tu vois, de prendre le temps de découvrir une discipline qui a mis, mais qui est tout le temps en mouvement, tout le monde ne peut pas être expert. Et le risque, en fait, dans le développement personnel, c'est qu'on pense que comme on a accès à ses pensées ou à soi, alors on saura être l'expert de soi-même. Mais malheureusement, en fait, c'est pas vrai.
C'est facile.
Et d'ailleurs,
utilisant l'expérience personnelle. Parce que c'est simple, c'est ce qu'on a vécu, c'est ce qu'on a ressenti, donc tout ça c'est vrai. Son expérience et ce qu'on a ressenti sont vrais. Eux, on peut pas dire que c'est faux, donc on utilise ça pour donner des conseils aux autres. Et, ouais. Et c'est ça le gros risque.
Oui, parce que même moi en tant que psychologue, si j'avais un problème, je dois aller voir un psychologue. Je peux pas, enfin, à part si je connais les exercices à faire, etc. Mais je peux pas comme ça. On a besoin des autres en fait. Et on a besoin de la science et de se regarder de l'extérieur. On en a besoin. On dirait que c'est plus long et que c'est plus fastidieux et qu'on va se tromper en faisant ça parce que l'autre ne nous connaît pas ou qu'on ne peut pas s'observer de l'extérieur et qu'il vaut mieux accéder directement à la petite voix intérieure. Mais c'est un biais, ça, de penser comme ça, en fait. Et qui est naturel parce qu'on a naturellement l'impression qu'on gère. Et tant mieux, parce que sinon, on serait dans une insécurité totale tout le temps. Sauf que la réalité, elle est différente. Quand on ne gère plus et que ça devient compliqué, c'est bien la preuve que ce n'est pas qu'on gère et qu'il y a des choses à observer de l'extérieur et qu'il faut qu'on comprenne ce qui se passe. Et ça demande une lenteur, ça demande une observation, une analyse qui est beaucoup moins rapide que celle du développement personnel dont tu parles, qui est très parlant, qui est direct, qui est immédiat, qui peut même amener un soulagement total directement. De se dire, enfin, j'entends quelqu'un qui dit ce que je pense depuis des années, enfin, j'en sais rien. Tu vois. Mais la réalité, c'est que c'est beaucoup plus long et que ouais, c'est beaucoup plus fastidieux, peut-être c'est beaucoup plus coûteux, j'en sais rien. Mais peut-être qu'au bout du compte, ça allait beaucoup moins, parce que passer des années à répéter les mêmes choses qui ne marchent pas, ou passer 3 mois à comprendre quelque chose vraiment de qualité, et même si on avance un petit peu, mais quand même on améliore quelque chose, bah, moi je préfère... Je préfère avoir fait la tortue que le lièvre, ça clairement, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, c'est évident, mais c'est pas un réflexe, c'est chez personne.
Mais juste pour finir sur ça, après je vais poser un peu les deux questions que je pose à la fin de mes épisodes. Mon podcast surtout, il est destiné à, tout le monde, mais notamment à des personnes qui se posent des questions dans leur vie pro. Je fais découvrir des métiers, je fais découvrir des personnalités, des parcours. Et ces gens-là, comme je l'ai été moi, c'est vraiment un gros problème pour eux de se sentir perdu, de ne pas savoir quoi faire de leur vie, quel métier. Et c'est très fort en eux. Mais qu'est-ce que ces gens peuvent faire? Est-ce qu'ils doivent... Est-ce que tu dis pas, je vais prendre 6 mois ou 3 mois à lire des livres et... Alors si, tu peux, mais alors qu'est-ce qu'ils doivent faire? Est-ce qu'ils doivent prendre 3 mois pour lire des livres? Est-ce qu'ils doivent voir un professionnel? Qu'est-ce qu'ils doivent faire, ces gens-là? Parce que ça peut être très mal vécu par certaines personnes.
Ben oui, mais la réponse ne va pas te plaire parce que la réponse est différente pour chaque personne, en fait. Mmh. C'est compliqué. Donc là, en plus, tu parles d'une situation et d'un contexte très précis. Des gens qui ne savent pas quoi faire de leur vie, c'est ça?
Professionnel, ouais, vraiment professionnel. Ben, limite personnel et professionnel, vraiment. Parce que souvent, ben, les deux sont malheureusement liés. Ou quand tu n'as pas le métier que tu as trouvé, ça devient une obsession de trouver le métier parce que ça va régler tous les problèmes. Enfin, je ne sais pas si c'est comme ça que tout le monde le ressent, mais c'est ce que j'ai pu entendre.
Alors, c'est vrai que ça dépend tellement du contexte, mais là, ce que ça m'évoque, c'est tout ce qui est modèle de l'incertitude. Donc, les modèles, l'intolérance à l'incertitude est l'un des processus, comme les autres, qui explique bien certains maintiens de troubles psychopathologiques. L'intolérance à l'incertitude, c'est le simple fait de ne pas supporter de ne pas avoir de réponse, de ne pas avoir de connaissances sur l'avenir et ce que je vais faire plus tard et si je vais trouver ma voie et si, tu vois. Donc là, on est dans la sphère de l'anxiété, très clairement. Enfin, ce que tu me racontes, après, chaque problématique est différente. Donc ça, c'est important.
Ouais, est-ce que j'ai bien compris,
hein. C'est vraiment important. Mais du coup, le conseil, c'est d'aller à son espace. Enfin, si c'est des étudiants, c'est d'aller à l'espace étudiant. Tout le monde n'est pas formé, malheureusement, en tant que professionnel, à aider un étudiant ou un professionnel même, au-delà de trouver sa voie, à l'aider à apaiser, en fait, ou à trouver des solutions pour son anxiété, si le problème est l'anxiété. En tout cas, moi, dans mon métier, je ne suis pas conseillère d'orientation, tu vois, par exemple. Donc, si on vient me voir parce qu'on n'arrive pas à trouver ce qu'on va faire, moi, mon but, ça ne va pas être d'aider à trouver la personne à trouver sa voie.
Non, mais de régler, par exemple, les anxiétés qui arrivent derrière, quoi, suite à
ces questions. Exactement. Et là, du coup, on va être dans l'anxiété généralisée, hein, sans doute. Anxiété généralisée qui est cette intolérance à l'incertitude et qui fait que je vais ruminer. Il y a des contextes, notamment dans les études, où il y a beaucoup de cas d'anxiété généralisée parce qu'on nous demande de nous orienter très tôt, très jeune. Des fois, on décide même à notre place. Et il y a tellement de transitions et de choses à conjuguer quand on est ado et quand on est étudiant et jeune professionnel, ou même plus tard, que ça devient un truc, que ça peut devenir un truc complètement infernal. Comme je t'ai expliqué tout à l'heure, limite une tyrannie du choix, en fait, tu vois, d'avoir tellement de choix et de perspectives et la potentialité de se tromper et d'être déçu et que toute sa vie soit déprimante parce qu'on s'est trompé de voie ou qu'on n'a pas trouvé, voilà, cette potentialité-là, c'est insupportable parce qu'il y a une chance que ce soit le cas, peut-être, on ne le saura jamais. Peut-être que tu ne vas jamais trouver ta voie et que tu seras malheureux toute ta vie. On ne sait pas. Mais là, il y a une intolérance à l'incertitude avec la croyance que, effectivement, trouver sa voie va résoudre le problème du bonheur. Donc, il y a des croyances là dans ce que tu dis. À mon avis, déjà, la première chose qui me vient en tête, c'est qu'il y a des croyances que c'est peut-être utile de s'inquiéter et de trouver sa voie. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, de ruminer. Ok, si je peux changer la donne, si je peux faire en sorte d'être heureux en trouvant ma voie, alors c'est qu'il faut que je le fasse. Il faut que j'anticipe. Il faut que je redouble d'efforts pour je sais pas moi regarder ce qui pourrait me correspondre, pour faire un podcast et avoir tous les métiers en tête et voir si j'ai un déclic. Je dis non, je vais te dire ça. En cas, mais voilà, ça me vient comme ça. Et je dis ça comme ça. Et donc là, on rentre en fait dans des comportements qui viennent répondre à une prédiction anxieuse dont on ne connaît pas du coup la finalité. Enfin, on ne sait pas en fait, on ne sait pas. Et le fait de faire des prédictions sur l'avenir, malheureusement, la société en fait, dès le collège, on en fait, à la fac, on en fait. Le fait de faire des prédictions comme ça, anxieuses, sur l'avenir, bah, c'est une erreur totale et ça peut engendrer beaucoup plus d'anxiété et d'anxieux, en fait. J'avais travaillé, en fait, j'avais fait de la recherche en psychologie et normalement, je me destinais à faire de la recherche en psychologie sur la transition des études au travail et le lien entre les choix professionnels et les problèmes psychosociaux. Et notamment, il y avait une sorte d'affirmation dans les études scientifiques que j'ai voulu contredire, qui était que plus on était insouciant face à son avenir, et plus on serait dépressif ou anxieux. Et moi, je me suis rendu compte en faisant des recherches et en lisant qu'en fait, on pouvait faire une hypothèse totalement inverse en regardant les études, qui était que, en fait, non, plus on était insouciant, enfin, quand on était insouciant, c'était pas forcément corrélé à plus d'anxiété ou de dépression. Sauf que c'est ce que la société, entre guillemets, c'est ce que les institutions, c'est ce que les conseillers d'orientation, très jeunes, c'est ce que nos parents, c'est ce que nos profs nous disent. Il faut que tu saches. Il ne faut pas que tu sois insouciant. Or, en fait, moi, je me suis rendu compte que les étudiants qui étaient insouciants n'étaient pas les moins bien lotis. Ils étaient, enfin, tu vois, les pires, c'était ceux qui réfléchissaient sans arrêt, en fait, et qui étaient dans une incertitude, qui n'étaient pas acceptés et tolérés. À la limite, dans les insouciants, il y avait ceux qui étaient insouciants parce qu'ils évitaient la question, et il y avait ceux qui étaient insouciants parce qu'ils toléraient très bien l'incertitude. Et le fait de ne pas savoir ce qui allait se passer demain. Tu vois. Donc, c'est une question hyper intéressante, mais qui ne répond pas aux problématiques individuelles. En tout cas, tout ce dont tu me parles, moi, ça me fait penser à ça, au modèle de l'intolérance à l'incertitude et de l'anxiété généralisée, qui est cette faculté que nous avons, plus ou moins, peut-être toi plus que d'autres, peut-être plus moi que d'autres, cette faculté de se faire du souci et de faire des prédictions sur l'avenir alors qu'on ne sait pas, et de réagir pour éviter une prédiction dont on ne connaît pas la finalité, et de réagir un peu trop, tu vois, de réagir tellement qu'on se gâche la vie et qu'on déprime.
Ouais, c'est exactement ça.
Ouais.
Merci pour tout ça. Ça m'a fait. En même temps que tu me parlais, je réfléchissais beaucoup à tout ce que tu disais. C'est intéressant. J'espère que. Comment? Ouais, t'allais dire un truc?
Oui, ça t'a fait penser à quoi exactement? Qu'est-ce que toi, ça t'évoque? Enfin, peut-être pas personnellement, individuellement, mais enfin, tu fais comme tu veux, mais ça m'intéresse de savoir
Non, mais le
ce que.
côté insouciant, je me dis. En fait, je pense surtout au fait de. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Au fait de faire des choses. Je trouvais que le fait de réfléchir, etc., ça empêchait d'avancer, ça empêchait de faire des choses. Et que les insouciants dont tu parles, j'imaginais des amis et tout qui étaient plus insouciants et qui faisaient un peu tout, parce que de toute façon, bah, on verra, tu vois, Inch'Allah. Et moi, j'avais ce côté où bah, j'ai plus de mal à agir parce que je vais prendre le temps de réfléchir, mais ça va partir dans tous les sens et ça va m'empêcher d'avancer. Et c'est avancer qui va me rendre un peu plus, enfin, qui va me permettre de mieux me gérer, tu vois.
Exactement, c'est ce qu'on fait en psychothérapie, c'est ce qui peut être fait dans la gestion de soi. C'est d'apprendre à agir et à faire des expériences. À faire des expériences pour peut-être avoir une autre vision des choses, tu vois, avoir une autre perspective. Même si c'est douloureux parce que c'est angoissant, parce qu'on va prendre des risques, parce qu'on aura agi alors qu'on n'aura pas réfléchi avant. Voilà. Mais c'est des risques qui sont des bons risques parce que c'est des risques pour voir des choses différentes et avoir des informations différentes. Nicolas a dû te parler du bayésianisme dans son.
Ouais, alors
Dans...
on a un peu touché à ça, ouais, sur le côté les pourcentages, est-ce que c'est 80% vrai ou plus, je pense que
Ok.
c'est 20% faux, tu vois. Après, on n'est
Et
pas
si
allé
tu
plus
fais.
loin, parce que c'est assez quand
C'est
même
ça.
complexe, mais...
Et si tu fais une prédiction que si tu réfléchis pas assez, alors tu as plus de chances de te tromper. Donc tu vas moins agir, tu vois ce que je veux dire? Mais peut-être que c'est possible que tu fasses une expérience, que tu agisses et que tu vois ce que tu penses de cette croyance, tu vois, et que tu réévalues cette croyance que en fait il faut à tout prix réfléchir ou anticiper pour éviter de se tromper. Mais il faut du coup définir très clairement ce qu'on va observer, tu vois, sinon c'est trop fou. Donc il faut savoir exactement quelle expérience je vais faire et
Quels sont les
pour
objectifs?
question, quelle croyance tu vois? Et peut-être qu'il y aura des nouvelles informations, ça le bayésianisme en fait, et tu pourras remettre à jour tes connaissances sur toi-même même, tu vois, sur ta capacité à gérer l'incertitude, sur la réalité. Est-ce que si j'agis alors que j'ai pas réfléchi, ça amène du négatif, ça amène ce que j'ai imaginé? En tout cas, on a un cerveau statisticien et on fait tout le temps des prédictions. Mais ces prédictions, des fois, elles nous empêchent d'agir. Tu as raison. Et l'autogestion, c'est apprendre à agir en connaissant un petit peu mieux les conséquences négatives ou les conséquences positives à long terme. C'est-à-dire que je peux me faire du bien en me soulageant, c'est une conséquence positive, on va dire, à court terme. Enfin, c'est plutôt un soulagement. Mais à long terme, peut-être que ça ne me convient pas. Mais peut-être que. Si j'agis plus, comme tu dis, alors tu dois penser à quelque chose de précis, peut-être que je considère que je vais peut-être, sur le long terme, avoir plus d'informations, plus d'expériences, j'en sais rien, ou plus ou de meilleures informations. Et donc, à ce moment-là, si j'ai cette connaissance, il va mieux valoir que je m'engage dans ces comportements plutôt que les comportements de rumination, tu vois. Donc c'est ça un peu l'autogestion de soi, c'est de connaître ses prédictions, de connaître ses comportements, de connaître un petit peu, tu vois, et de se dire, bah, avec ça, comment je peux aménager les choses, comment je peux un petit peu négocier avec moi-même et tester autrement pour élargir mon répertoire d'autonomie, de qualité de vie, de compétences. De sentiment de capacité à savoir faire face à l'anxiété et à l'incertitude.
Apprendre à mieux se connaître soi-même, ouais, c'est... Bon, en tout cas, c'est un... Je sais pas, alors, on parle depuis ouais, un peu plus d'une heure.
Ouais, je...
J'ai deux questions que je pose toujours en fin de rencontre. La première question, c'est bah, quel conseil tu te donnes à toi-même pour ta vie future? C'est assez global, c'est assez large.
Et c'est un conseil, du coup?
Comme tu veux. Un, deux, trois. Les conseils, le ou les conseils.
Bah, le premier, c'est d'avoir beaucoup de compassion pour moi-même, toujours. D'avoir beaucoup de compassion, de bienveillance. Et
D'accord.
c'est pas genre tu peux y arriver et le coup de pied dans le cul, c'est l'inverse. Plus de la compassion, de l'empathie, de la bienveillance.
Plutôt, tu peux ne pas y arriver, c'est pas grave. Genre, si tu arrives, tu peux te
Ouais,
rater, c'est comme ça.
c'est pas grave. Et surtout, bah, je suis là. je suis présente et je. C'est pas que c'est pas grave parce que je relativise pas, ça peut être grave. Et voilà, et t'es courageuse, c'est grave, et t'es là, et t'es... de m'accompagner, d'être. Voilà, de la compassion, quoi, vraiment de la compassion. Comme on en a pour des personnes, on va pas systématiquement se jeter sur eux en disant mais t'as qu'à faire ça, t'as qu'à faire. Mais des fois, il y a rien, on est juste, on est obligé de constater et d'avoir de la compatie et de prendre le temps et voilà, d'être vraiment sympa avec soi-même, plus que sympa, quoi. Enfin, voilà. Donc ça, je dirais que c'est hyper important pour moi. Et après, de continuer à me former, à apprendre des choses, en fait. À apprendre des choses, quand je dis choses, du coup, ce serait plus des objets, de la science, des connaissances, d'avoir de plus en plus de connaissances, de compétences, de m'exercer. C'est ce que je fais en permanence et à la fois je m'amuse à le faire et à la fois ça me permet de grandir et de me dire... En fait, j'ai l'impression, désolée, je fais une parenthèse, mais elle est importante, que plus j'ai des connaissances, plus le temps s'allonge. Plus je me dis « Waouh, je suis tellement loin de cette idée de sagesse et je suis tellement contente que je ne l'atteigne jamais et que je sois juste comme volontairement sur la route. » Il y a ces profs-là qui ont des fois 30 ans d'expérience et je les admire et j'adore avoir ce... Enfin, je les admire, pas exagérément, et j'adore avoir ce constat que je suis tellement petite et que j'ai tellement de choses à apprendre, tu vois. Et de savoir que c'est ça qui est bien, que c'est d'avoir cette modestie et de faire ce qu'on peut comme on peut. Et ça aussi, c'est de la compassion. Et c'est aussi faire des choses pour l'autre et pas vouloir aussi avec les patients, vouloir les bouger ou qu'ils soient bien à tout prix, tout le temps. C'est comme ça, les choses, elles sont comme ça. Donc, de m'exercer, d'être patiente, de m'entraîner, ça, c'est hyper important. Et ça, c'est les choses. Et après, c'est d'apprendre des gens, des hommes, en fait. Parce que moi, quand j'apprends des choses de mes patients, je leur pose souvent la question, qu'est-ce que vous avez, vous, retenu de cette séance? Et quand je leur dis ça, je ne leur demande pas, récapitulez-moi ce que je vous ai dit. C'est vous, je veux savoir ce que vous avez
compris.
C'est ça. Et ils me sortent toujours des choses qui... J'apprends des trucs d'eux et du coup, je vais pouvoir m'adapter à eux. Et surtout, du coup, j'apprends des choses sur moi. J'apprends tout le temps des choses aussi... sur moi, tu vois, même si quand je suis avec mes patients, je suis pas concentrée sur moi. Mais une fois que je suis sortie de là et que je repense à eux de temps en temps, ou que ça m'a marqué, que ça m'a touchée, ou que je vois tous les efforts qu'ils ont fait, les ressources qu'ils ont déployées, je me dis, mais c'est génial. Et en fait, je me retrouve quand j'étais petite, et comme je te disais, cet amour que j'ai des autres et cette envie d'apprendre, en fait, c'est juste que je suis hyper en modèle sociaux et miroir et j'adore imiter les gens aussi et j'adore imiter même leur mouvement interne. J'ai envie de dire, c'est très poétique ce que je suis en train de dire, mais les ressources qu'ils déploient eux-mêmes et je les apprends et je m'en inspire. Ce seraient ces trois conseils-là, en fait. D'avoir de la compassion pour moi-même, d'être bienveillante, d'être patiente, d'apprendre des choses et des connaissances et d'apprendre des autres, quoi.
Ok. Ouais. Et la deuxième question, c'est quelles sont les trois valeurs de Clotilde? Ou trois, ou deux, ou un, une, comme tu veux. Je dis trois parce que je sais pas, dans ma tête, il y a trois à chaque fois. Mais...
Finalement, dans ce que j'ai dit, je pense qu'on les retrouve.
On les retrouve pas mal, ouais, mais en trois mots.
Ce qui est important pour moi, bah, c'est ça, c'est d'être bienveillant, d'être compétent, enfin de s'exercer, d'être, comment on pourrait dire ça, rigoureux, méthodique. Et après, une autre valeur qui n'a rien à voir, parce que là, on a parlé beaucoup de prendre le temps et tout ce qui est prendre le temps, contemplation. Moi, j'adore la nature, les trucs comme ça, plein d'aquariums, j'ai de la musique et tout. Et donc ça, c'est une valeur importante chez moi, le côté contemplatif, évasion.
Ok, très bien. Bah, merci beaucoup en tout cas, Clotilde. Merci pour ce...
Bah, je te remercie beaucoup.
Je sais pas combien de temps ça a duré, mais en tout cas, pour tout ce temps passé ensemble.
Merci.
Ce podcast étant une histoire commune entre ses auditeurs et ses invités, je voulais vous remercier pour votre écoute. Aussi, vos notes, commentaires ou encore le bouche à oreille sont au cœur de la réussite de cette aventure. N'hésitez donc pas à partager votre avis.